Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
Ça m'est arrivé, par exemple, bon, comme j'ai dit, j'avais un peu de succès, donc il y avait des moments où j'avais pas envie de travailler parce que j'étais fatiguée. Mais on me poussait quand même, on me disait, allez, encore un shooting. J'ai dit non, à moins de 10 000, je viens pas. Alors, quand j'y pense maintenant, ça me fait vraiment rire parce que à 8 000 ou 5 000 ou même 800, là, je viens.
C'est un peu un marronnier des études anglo-saxonnes, je sais pas pourquoi. Régulièrement, on lit ce genre de news. Un chercheur australien ou américain fournit des chiffres qui attestent que les gens beaux seraient mieux payés. Il y aurait donc un beauty privilege, comme on dit en anglais. Et bon, instinctivement, on sent bien que ça peut être le cas. Il n'y a pas besoin forcément qu'une pseudo-étude vienne nous le prouver. Mais qu'en est-il du côté des grands champions et surtout des grandes championnes de cette catégorie alors ? En cette semaine où la Fashion Week débarque à nouveau à Paris, Leslie, ex-top modèle, qui a très clairement oublié d'être bête, nous ouvre les portes du monde des très très, mais alors vraiment, très belles personnes. Les mannequins sont rémunérés pour leur apparence. Mais selon quels critères ? Qu'est-ce qui fait qu'une Kate Moss vaut plus qu'une autre ? Quels sont les coûts cachés de cette profession où l'on vend ce que l'on paraît, voire ce que l'on est ? Mannequin, est-ce un objet, un savoir-faire, un métier ? Et comment se fait-il que leur rémunération varie, s'étale sur une grille qui va de, j'allais dire, zéro, mais vous allez voir, ça peut être en négatif, à des centaines de milliers d'euros ? Si, comme moi, vous vous interrogez sur le prix de la beauté, toutes les réponses sont dans cet épisode. Bonne écoute! Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Leslie. Leslie, tu as 37 ans et non seulement tu as une très belle carrière de mannequin derrière toi, mais en plus aujourd'hui, tu travailles dans une agence de mannequins. Avant qu'on parle de tout ça, j'aimerais savoir, t'as grandi où?
J'ai grandi à Limoges.
Et tes parents, ils faisaient quoi ?
Mes parents ne travaillaient pas vraiment. Ma mère était artiste peintre à l'époque. Elle gardait des galeries, elle faisait des petits boulots. Et mon papa faisait des petits travaux à droite, à gauche. Voilà.
Vous parliez d'argent à la maison ?
Pas de l'argent, mais du manque d'argent. Énormément, parce que j'ai grandi dans une famille très, 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 très modeste et qui n'était pas du tout intéressée par l'argent. On ne partait pas en vacances, on était dans des situations... d'appartements toujours un peu précaires avec ma maman, avec des fins de mois toujours difficiles. Je pensais que c'était comme ça. Pour moi, la galère, c'était normal.
Et à quel moment t'as commencé à réaliser que peut-être ta beauté pouvait devenir de l'argent ?
Une fois qu'on me l'a dit. J'en ai douté même jusqu'à vraiment ne pas pouvoir éviter de me rendre compte qu'il y avait du succès. C'est-à-dire que j'ai mis du temps à percuter que oui, effectivement, j'avais du potentiel et que j'avais une chance exceptionnelle. Mais ça a pris du temps avant que j'imprègne.
Tu voulais faire quoi quand t'étais petite ?
Je voulais faire caissière parce que je pensais qu'on partait avec le tiroir caisse à la fin de la journée. Et après j'ai voulu faire plein d'autres choses et puis j'ai tout lâché.
Comment t'es devenue mannequin ?
Je me suis fait repérer pendant un séjour en Suisse. J'avais un ami qui vivait là-bas. C'était les vacances scolaires. Et il y avait un espèce de concours de mannequins organisé dans un supermarché où on passait. Et il a voulu faire une blague. Il m'a poussé un petit peu sur la dame qui organisait le concours en disant « Elle est jolie, elle est jolie. »
T'as quel âge à ce moment-là ?
Là, j'ai 16 ans.
Et je suis un petit peu en train de partir déjà de la maison, ça va pas trop. Et je saute sur l'occasion, en fait. La nana me dit, t'as un potentiel, tu peux faire quelque chose. Ça me fait peur au début, donc j'ai pas envie d'y aller. Je prends un petit job de serveuse et puis elle retombe sur moi 2-3 mois après et réinsiste. Et là, m'inscrit dans son agence. Voilà. Et elle me dit tout de suite, bon, t'es mignonne, mais tu feras rien. Je vais te mettre sur des petits salons de bijoux, des petits trucs d'hôtesse. Voilà. Moi, elle me dit, je te paye 200 francs suisses la journée. Je suis aux anges. J'ai l'impression que j'ai touché le jackpot. Et à la suite de ça, je fais quelques petites prestations comme ça, tout en gardant mon petit boulot de serveuse pourri. De fil en aiguille, elle décide de m'envoyer dans une agence en Italie, parce qu'elle a, en fait, elle doit présenter plusieurs de ses mannequins. Et elle me dit, voilà, j'en ai pas assez, donc je te paye pour que tu y ailles. Elle, tu seras pas prise. Mais voilà, c'est pour me rendre service. Donc je te paye, tu y vas, tu te présentes là-bas. Ça sera les autres filles qui seront prises, mais voilà, pour faire du nombre, je te demande d'y aller.
Déjà, on se rend compte que c'est assez dégradant, ouais. Enfin, comme façon de rentrer dans ce métier.
Complètement.
À la fois, t'es très valorisée pour ta beauté, et en même temps, il y a un discours autour de toi qui est pas du tout narcissisant.
Bah, tout de suite, en fait, on te dit, ok, t'as le physique pour rentrer dans ce truc. En revanche, tout de suite, on me dit, tu seras pas top modèle, quoi. T'es trop petite, t'es trop ci, t'es trop ça.
Tu crois que c'est un discours qui est assez commun ou qui était assez commun à cette époque?
Tout à fait, tout à fait. Bah, en fait, c'est-à-dire que on fait face à un truc où bon, des gens beaux, il y en a beaucoup. Pour que ça devienne bankable, c'est tout un périple. Et en tant qu'agent, je me rends compte, on se trompe très souvent. On se trompe, des fois on passe à côté d'un physique qui est bien, des fois on croit à un physique et qui ne va pas fonctionner. Donc ça, c'est complètement aléatoire.
Il n'y a pas aussi peut-être, dans ce discours de cette personne de l'agence qui te recrute la première fois, une façon de te faire comprendre que te la joue pas trop, espère pas trop, et éventuellement tu seras pas trop payée.
C'était un peu ça. Et donc au final, j'arrive, je prends le train avec toutes ces autres filles qui sont toutes, elles, d'1m80, moi je faisais 1m74 à l'époque, et qui se moquent un peu de moi. Voilà, je me sens dans un truc où vraiment je suis timide. En plus, à cette époque, j'étais vraiment très timide. Et donc on est dans le train et elles se moquent de moi, quoi, clairement, en disant mais tu viens pour rien, ça va être hyper humiliant, tout ça. Et on arrive dans l'agence, qui à l'époque c'était l'agence Beatrice, et on rentre dans l'agence et en 2 secondes, ils virent toutes les autres filles, ils gardent que moi et je suis plus repartie. On ne parle pas du tout d'argent, du tout, du tout. Tout est tout de suite pris en compte, c'est-à-dire que je ne me rends pas du tout compte de ce qui se passe. J'ai su par la suite qu'en fait, ils ont donné de l'argent pour que la première agence me lâche. Et ils se sont donc occupés de moi. Et après, il y a eu plein de choses voilà, que j'ai réalisées bien après. Mais sur le coup, moi, je suis ado, je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Et en fait, ils me disent, voilà, on te loge, on te donne un appartement de mannequin. Donc, je me retrouve à habiter dans un truc dortoir dégueulasse avec 9 Russes, une salle de bain dans un quartier douteux. Voilà, et je paye 50 euros par nuit pour dormir dans ce taudis. Et on me donne 50 euros d'argent de poche par semaine. Et là, j'enchaîne, casting, 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 casting.
Tu es en Italie?
Je suis en Italie, à Milan, ouais.
À Milan. Voilà.
Exactement. Et on me demande à peine si mes parents sont au courant, on me demande à peine une autorisation, on me demande à peine... voilà, c'est dingue. Avec le recul, je me dis, il aurait pu m'arriver n'importe quoi.
Toi, tu commences à nourrir des ambitions?
Pas vraiment. Je me dis, j'y vais, Inch'Allah, je vais toucher un peu de sous et après, je rentre en Suisse, quoi. Je me disais, j'avais vraiment, c'était au jour le jour.
Tu te dis quand même que peut-être cette situation, en tout cas de précarité, notamment financière et matérielle, elle peut pas durer toujours, quoi.
Non, voilà. Et puis ça me fait peur parce que c'est vrai que, donc, comment ça se passe quand une agence prend une fille comme ça? Ils avancent tout l'argent, mais après, il faut qu'on rembourse. Donc, si tu bosses pas...
Ça veut dire quoi? Ils avancent tout l'argent, il faut qu'on rembourse?
C'est-à-dire que là, par exemple, bon, bah, pour cette location d'appartement, mettons, c'était pas moi qui payais de mon argent cette location, c'est l'agence qui avance. Donc, ils tiennent un compte, en fait, sur chaque mannequin, où ils se permettent d'avancer de l'argent. Et une fois que la fille travaille, ils s'auto-remboursent.
Donc, tu pars avec une dette.
Tu pars avec une dette, voilà.
Donc, tu ignores tout, que tu n'as pas décidé.
Voilà, exactement. Bon, on a dû m'expliquer plus ou moins, mais à l'époque, je parle pas anglais. Enfin, c'est, faut situer le truc. Et en fait, maintenant que je suis agent, je me rends compte que les 3/4 des filles ne comprennent pas du tout ce qui se passe et qu'en fait, quand tu commences à leur expliquer, ça les fait paniquer. Mais c'est le système qui vaut ça. C'est-à-dire que quand une fille commence, bon, ben, on doit investir pour son book. On doit investir...
faire des photos,
voilà,
organiser un shooting.
Exactement. Et donc, en fait, en tant qu'agent, t'es obligé d'investir un minimum pour que la fille puisse éventuellement décrocher des cachets. Donc on le sait, on s'autorise une perte sur certaines filles. Alors bon, il y a des pratiques différentes d'agence en agence. Parfois, certaines agences demandent aux filles de rembourser.
T'as 16 ans à ce moment-là.
Ouais.
Quand tu commences, donc t'as pas de compte en banque.
Non.
On te demande l'aval de tes parents.
Plus ou moins. Je me souviens plus très bien. Il me semble que ma mère a dû envoyer un courrier comme quoi elle était d'accord. Mais c'est qu'arrivé aux États-Unis que là, ça a devenu plus compliqué parce que les lois étaient beaucoup plus strictes qu'en Europe.
On va quand même s'arrêter sur cet aspect des choses. T'es pas la seule mineure à être mannequin.
Ah
ça,
non.
Ça commence souvent très jeune. Hein.
C'est ça. Et moi, j'ai l'avantage de venir d'un pays développé, d'avoir des parents voilà, qui m'ont éduquée. Donc, je suis pas trop débile non plus. Je comprends un petit peu comment ça se passe. Il y a des gamines qui viennent d'endroits où il n'y a rien de comparable. La petite meuf qui vient de Russie, qui parle pas anglais, tout ça. Enfin, c'est très, 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 très déstabilisant.
L'argent, on te le donne de la main à la main?
Le petit pocket money, ouais, on me le donne de la main à la main, ouais. Pour que je fasse mes petites courses et tout ça. Ces petites avances s'appellent le pocket money. Quand les filles viennent de l'étranger et qu'elles commencent tout juste, on leur donne une petite somme d'argent pour qu'elles puissent se déplacer en métro, etc., etc.
Alors apparemment, t'as bien réussi.
Oui.
T'as décroché tes premiers cachets.
C'est ça, j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire quand j'arrive dans cette agence, un petit peu même aspect que dans la première. C'est-à-dire que oui, on me prend, mais on me dit, bon, n'aie pas trop de grands espoirs, tu es trop petite. Mais on a quand même envie de te présenter pour la Fashion Week. Et je me souviens très bien de cette bookeuse, Paola, qui me dit, hey, darling, hein, don't dream, hein, you're not gonna do Gucci or Prada. Et j'ai tout fait, je les ai tous eus. J'ai fait tous les défilés quasiment cette saison et je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. J'ai fermé le défilé Miu Miu et je pensais que c'était pas bien parce que du coup j'étais tout à la fin. Mais en fait, c'est un privilège de fermer un défilé. Et voilà, en fait, je me rends pas du tout compte parce que moi, je mesure pas en fait l'importance de ces couturiers qui me donnent de l'intérêt, qui m'optionnent pour faire leur campagne, leur truc. Je comprends pas du tout.
On parle toujours pas d'argent? Faire un défilé.
Je sais pas combien on va me payer. Voilà, je suis pas trop au courant. Et donc, il se passe cette première saison de défilé qui se passe très très bien. Et là, j'ai mon premier chèque, quoi. Je pense que c'est à peu près 8000 euros. Donc là, tout de suite, je me dis, bon, bah, c'est pas mal le mannequinat. Je vais rester là. Ça me plaît pas, hein, comme travail. Je me sens imposteur. Je me dis, mais c'est pas possible. Voilà, je trouve ça très bizarre. J'ai du mal, je me sens pas du tout respectée, entre guillemets, parce que bah, quand t'es mannequin, tu te fais un peu maltraiter quand même, hein, faut le dire. Donc j'ouvre pas mal ma gueule. Bon, voilà.
Maltraiter, c'est-à-dire la façon dont on te parle, la façon dont
voilà.
Ton corps, la façon dont
voilà.
On te...
Bah, c'est
on
assez
te fait
dur
comprendre que t'es un peu un porte-manteau, quoi.
Oui, voilà, et puis bon, tu t'es dans un monde d'adultes qui, eux, sont dans la mode et dans leur sphère depuis très longtemps et qui se rendent pas compte forcément que ça peut être impressionnant pour une jeune fille, qui ont des discussions qui sont pas de mon âge, qui parlent de partout, de drogue, de trucs, tout le monde fume autour de moi.
Pour désigner les mannequins, souvent, et d'ailleurs tu viens de le dire, on dit les filles.
Ouais, c'est vrai.
Il y a un côté, les filles, c'est des petites filles, enfin, c'est des adolescentes, c'est pas des femmes.
Non.
Et puis, il y a un côté, on n'est pas très loin du vocabulaire de la prostitution, tu sais.
Bah, c'est souvent, tu sais, je me suis surprise une fois, j'étais au téléphone, à un comptoir, voilà, et j'étais en train de dire, oui, mais ce client-là, c'est un client régulier, on peut lui faire un prix. Et en disant ça, quelqu'un m'a regardée et je me suis dit, ça doit être très bizarre. On a dû croire que je parlais d'autre chose, là. voilà, c'est vrai que bon, bah, quand on va au travail et qu'on est mannequin, bah, on s'épile pour y aller. Tu vois, c'est, donc oui, il y a.
Et puis on est une fille parmi les autres filles.
Et puis il y a un petit lien, ouais, il y a un petit lien sur le côté agent macro. Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, ouais. Bon, là, je suis donc reprise par une autre agence plus importante à l'époque qui s'appelait Ford Models à Paris. C'est là où la première histoire avec un agent qui valait vraiment le coup commence avec Patricia, qui est depuis toujours une amie, qui me prend à Paris et qui me fait faire donc les gros défilés parisiens. Et je décroche un petit truc avec Saint-Laurent. Et c'est la première fois là que oui, j'ai un cadeau. Je travaille dans une grande maison, donc on est très très bien traité dans ces maisons-là. Ils mettent un point d'honneur à traiter les mannequins, voilà, à la hauteur de ce que coûtent leurs vêtements. Donc là, je commence à avoir mes premiers cadeaux, oui. Et j'ai à peine 18 ans.
On sent bien qu'il y a une très vaste hiérarchie entre la fille qui rentre dans le système.
Oui.
Qui se fait pas mal bolosser et éventuellement qui crée une dette, carrément, c'est même pas que.
C'est
et qui gagne rien et qui vit dans des conditions pétées. Et la mannequin qui commence à réussir, qui est repérée.
Bah, t'as le profil. En fait, pour moi, il y a trois profils. T'as la fille qui, depuis toujours, veut devenir mannequin et qui, donc, comprend comment ça fonctionne et fait tout pour y arriver. Et donc, bon, si elle a le physique, en général, elle se dépatouille à avoir une carrière pas trop mal. T'as la fille qui a jamais voulu et sur qui ça tombe et qui a la success story.
Ça, c'est toi.
Ça, c'est moi. Et puis, t'as la fille sur qui on croit qu'on peut faire quelque chose et puis ça marche jamais.
Ah, l'enfer.
Et ça, c'est l'enfer. Et c'est beaucoup plus souvent comme ça. Et quand moi, je commence le mannequinat et que je vois ce succès, évidemment, comme je suis sur les défilés avec les autres filles qui sont en succès, je ne vois pas cet aspect des filles pour qui ça ne fonctionne pas. Et là, maintenant que je suis agent, je me rends compte à quel point c'est exceptionnel de réussir dans le mannequinat. C'est vraiment exceptionnel. Quand je dis réussir, je dis avoir une carrière qui est remarquable avec des belles prestations, des beaux clients, etc. Gagner sa vie en tant que mannequin, c'est facile.
Ah bon ?
Ouais. Tu gagnes très facilement. Enfin, une mannequin pas terrible, hein, qui n'a pas beaucoup de succès, qui peut faire des petites prestations de showroom et de trucs, elle peut facilement gagner 4000 euros par mois.
C'est un milieu où il y a encore de l'argent.
Il y a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. C'est indécent.
Alors, comment tu gagnes ta vie ? De ce que je comprends, t'as de toute façon un agent.
Oui.
On dit un agent, d'ailleurs, pas une agente. On dit une fille, mais on dit un agent.
Ouais, toujours.
Même si c'est une femme. Donc, tu passes de cette agence en Italie à l'agence à Paris.
Exactement.
Avec Patricia. Et Patricia va toucher une commission ?
Non, elle est salariée. Donc, en fait, la seule personne qui touche une commission, c'est l'agence, enfin, le patron.
Le patron de son agence à elle.
Voilà. Mais elle est payée en salariée.
Et donc, c'est malgré tout elle qui négocie
tous mes contrats. C'est elle aussi qui, à 6h du matin, m'appelle pour me dire « Je crois en toi, ma chérie, lève-toi, j'espère que t'as bien bu de l'eau, est-ce que ça va? Est-ce que t'as besoin de 50 balles pour faire des courses? T'as appelé ta maman pour lui donner des nouvelles, comment ça va? T'as besoin que je te prenne rendez-vous chez le médecin? Enfin, » C'est une maman, elle s'occupe de moi, vraiment.
C'est personal assistant,
c'est ça.
Nounou.
Mais c'est rare. Elle a fait ça pour toutes les filles avec qui elle a travaillé, parce qu'elle est comme ça, mais il doit y avoir un agent sur 10 qui est comme ça, sur 20 même.
Sinon, ils t'appellent plutôt pour des questions vraiment de travail, quoi.
Voilà, c'est ça. Puis, ils se soucient pas trop de toi. C'est-à-dire que t'as des agents qui peuvent faire venir des filles et puis la laisser dans un appart de mannequin pendant 3 semaines sans s'en occuper et en oubliant et en faisant des conneries. Et en... Voilà, c'est...
Donc là, toi, tu te retrouves portée au nu. Mm-hmm. T'as beaucoup de succès.
Ouais.
Et tu commences à très bien gagner ta vie. Tu te retrouves projetée dans un monde de luxe.
Je me retrouve projetée dans un monde que je connais pas du tout. De luxe, effectivement, donc ça m'amuse beaucoup. Et là, la troisième étape qui arrive, c'est je suis repérée par Calvin Klein et ils me font venir à New York. Et donc, je suis encore mineure pour les États-Unis parce que c'est 21 ans là-bas. Et donc là, j'habite dans un appartement avec un chaperon. J'ai un couvre-feu, on surveille ce que je mange, etc. Là, c'est les États-Unis. C'est plus du tout la même façon de faire. Aux États-Unis, être mannequin, c'est un vrai travail parce que je rappelle qu'en France, il n'y a pas de statut de mannequin. Mais aux États-Unis, c'est un vrai travail et c'est très, très, très réglementé, surtout sur les jeunes filles mineures. Et donc, je décroche ce contrat avec Calvin Klein où je dois en fait faire tous les looks. Donc, faire les looks, ça veut dire qu'on prépare la collection sur toi. Donc, tu es à 24 avec le couturier, le styliste, etc. Et à la clé, je devais défiler pour Calvin Klein. Bon, ça ne s'est pas passé comme prévu. Au final, ils m'ont annulé. Ça arrive aussi très souvent. T'es prévu pour le truc et puis au final, ils disent « Oh ben non, on l'aime plus. »
Ils changent d'avis.
Ils changent d'avis, donc ils t'annulent. Voilà. À savoir aussi qu'ils payent une exclusivité pour que tu ne fasses pas d'autres défilés. Là, c'est là où tu commences à te dire « Je suis une personne, mais je suis quand même un produit. »
C'est très étrange.
C'est très étrange. Dans une journée, d'un casting à l'autre, tu es trop grande, trop petite, trop grosse, trop maigre, trop blonde, pas assez blonde. T'es critiquée, en fait, ça va jamais. T'es toujours, dans la même journée, t'es géniale, t'es nulle, t'es grosse, t'es moche.
Enfin, t'es la plus belle, t'es la plus moche.
Donc tu fais des ascenseurs comme ça tout le temps, donc en fait c'est psychologiquement usant.
Ça demande apparemment une très très grande disponibilité.
Ouais.
Tu peux pas effectivement prévoir quoi que ce soit, puisque tu ne sais pas ce qui va se passer.
Non, t'es astreinte tout le temps. Ouais. T'as plus de vie, et puis ta vie, en fait, le truc c'est que ta vie devient ton travail complètement, parce que dès le matin quand tu te réveilles et que tu regardes ta gueule dans le miroir et que ça va pas, tu te dis « Ah merde, ça va pas être cool au boulot aujourd'hui. » Tu vois, ça devient ta vie, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas mesuré et que j'ai compris un petit peu tard, au moment où ça a commencé à trop m'étouffer. Voilà.
Mais t'étais jeune, donc de toute façon,
oui,
t'étais
voilà.
Pleine d'envie
c'est
de découvrir.
C'est ça. Mais oui, le mannequinat, ça change ta vie, complètement. Donc tu peux pas faire ça part-time comme ça et mettre ça de côté, quoi.
En faisant des études de droit à côté, quoi.
Bah si, tu peux, mais dans ce cas-là, il n'y a pas d'aspiration à avoir une success story comme ça.
Donc, à New York, tu es dans des meilleures conditions ?
Je suis plus encadrée. Alors, je rappelle quand même qu'à Paris, j'ai eu la chance d'avoir cet agent qui s'occupait très bien de moi, mais ce n'est pas le cas de toutes les filles. Et on parle aussi d'il y a 20 ans en arrière. Là, maintenant, les choses sont différentes quand même. Les choses se sont quand même régulées. Les filles sont quand même plus protégées. Il y a 20 ans, c'était dangereux.
Il y a 20 ans, c'était aussi l'âge d'or. Ouais. Encore l'âge où on pouvait avoir des top modèles, on pouvait devenir top modèle.
Ben, c'est ça. Alors, je rappelle quand même que la notion de top modèle, c'est les années 90, c'est Claudia Schiffer, etc.
Après, sur la côte comète de ça, toi, en quelque
voilà.
sorte.
Voilà. Et je suis encore, en fait, quand ça commence, je suis encore, oui, on a des budgets pharaoniques pour des pubs, voilà. Un catalogue La Redoute, à l'époque, on nous payait 10 000 euros et on faisait 4 photos. Maintenant, La Redoute, ils nous payent 2000 euros et on fait du e-shop. Et c'est 90 photos la journée. Donc, ça a drastiquement changé.
Ça a eu payé.
Voilà, ça a eu payé. Alors, il reste encore des prestations très, 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 très alléchantes. Mais on n'est plus du tout sur les mêmes codes financiers qu'il y a 20 ans. Ça, c'est sûr. Le Covid, là, a encore donné une autre notion. Parce que les clients s'en sont servis pour dire bah, depuis le Covid, plus de budget, machin et tout. Bon, c'est une excuse, hein, complètement. Mais c'est vrai qu'on est retombé sur un truc un petit peu plus normal, là, quand même. Voilà. Bon, et payer 2000 euros la journée pour faire des photos, ça reste quand même exceptionnellement chouette.
Ouais, mais après, il y a toute la précarité, etc. Là, la success story dont tu parles, donc mise à disposition de ton corps, de ta charge mentale, etc., H24, trimbahutage d'Italie à Paris, à New York.
C'est ça.
Bien dormir, bien manger, bien boire et pas savoir ce qui va se passer
le lendemain. Ouais, parce que t'es vraiment prévenu au dernier moment et c'est vrai que c'est une vie déstabilisante, mais après c'est aussi chouette, vraiment. Non, c'était excitant.
Mais alors là, tu deviens mannequin. À ce moment-là, à New York, t'es mannequin.
Vraiment, là,
quand on te demande
là,
ce que tu fais dans la vie,
oui,
tu dis je suis mannequin.
Complètement.
Est-ce que tu vis une vie de mannequin avec des sorties glamour et paillettes de mannequin?
Oui, l'agence, une fois, on était invité à un truc, je ne sais même plus quoi, mais ils sont venus nous chercher en limousine. On avait un designer qui nous prêtait des vêtements. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à raconter parce que ce jour-là, dans cette voiture, on nous avait offert un iPod. C'était la première fois que ça sortait. C'était un objet complètement surréaliste pour moi. Voilà, on nous a offert ça. Et je suis dans la limousine avec cette mannequin qui vient du Kenya. Et qui me regarde et qui me dit « Ah bah chouette, je vais ramener ça chez moi, mais ça va être difficile de le charger parce que j'habite dans une case, j'ai pas l'électricité chez moi. » Et c'est là aussi où je me rends compte, alors c'est l'aspect de cet univers qui m'a beaucoup plu, c'est de rencontrer des belles femmes du monde entier. Et dans cet appartement à New York, je suis avec cette fille qui s'appelle Adjuma, dont je me rappellerai toute ma vie parce que bah, quand je suis arrivée dans l'appartement, elle dormait par terre parce qu'elle faisait 1m82, donc elle rentrait pas dans les petits lits dortoirs et qu'elle n'était pas habituée du tout à dormir dans un lit cadré comme ça. Et pour elle, c'était indécent ce qui se passait. Mais elle se disait, mais moi, je préférerais qu'il me donne l'argent de l'iPod pour nourrir tout mon village, quoi. Il y a un contraste énorme.
Tu commences à te rendre compte de l'argent qui rentre?
Ah oui, là, je commence à m'en rendre compte. Oui, complètement, complètement. Là, je gagnais 50 000 dollars par mois. Voilà.
C'est énorme. À l'époque, c'était encore plus que maintenant. 50 000 dollars,
c'était énorme. C'était énorme. Et oui, effectivement, j'ai la belle vie, quoi. J'ai la belle vie.
Tu claques les 50 000 dollars par mois. C'est compliqué, éventuellement, de claquer 50 000 dollars.
Non, je les claque pas. Moi, après, j'ai pas gagné cette somme tous les mois, tout le temps, hein. Ça, c'était un bon mois, quoi. Mais oui, je claque un peu de thunes. Je m'achète des vêtements un peu chers. Bon, c'est un peu aussi normal parce que il faut représenter un petit peu. Les gens savent que tu bosses bien, donc tu vas pas t'habiller comme une, voilà. Puis c'est toujours agréable d'avoir un beau sac à main, tout ça. Puis à l'époque, on était dans une mode un peu clinquante, contrairement à maintenant. Maintenant, être en jean basket, c'est vachement plus toléré. À l'époque, t'es quand même dans un truc où les nanas, elles aimaient bien avoir le beau sac à main, les chaussures à talons. C'était très babe, quoi. Voilà.
Statutairement, par rapport à la sociabilité que tu peux développer, est-ce que c'est une bonne position, mannequin?
Ah, pas du tout. Pas du tout, parce que, bon, déjà, il y a une notion, c'est que tout mon entourage avant le mannequinat, me rejettent un petit peu avec le succès parce que ils comprennent pas, il y a une jalousie. Et oui, moi j'ai du succès, donc je suis contente, donc je parais certainement puante, tu vois. Et puis pour toute ta famille, bah, plus personne te regarde pareil. Tu deviens une espèce de truc star. Comme je rappelle, je viens du Limousin. Ma famille avait pas du tout, du tout notion de ce genre de truc. Et donc il y a une certaine forme de de jugement. Et de, ouais, je me suis sentie très éloignée.
On essaie de te gratter?
Oui, un peu. Mais après, bon, c'est, ma mère galérait, évidemment, je l'ai aidée. Enfin, c'était logique. Mes parents voyageaient jamais. J'ai offert un voyage à mon père à l'île de la Réunion. J'étais super contente. Enfin, voilà, oui, oui. Évidemment, tu rinces un petit peu quand je viens à Noël. J'invite tout le monde au restaurant. C'était génial. C'était super agréable. J'adorais. Voilà. Mais avec le temps, maintenant, je me suis rendu compte que ça a été un peu perçu comme une arrogance.
Ah, pas évident, hein.
Pas évident. Et puis, sur l'environnement après extérieur, quand tu dis que t'es mannequin, c'est comme quand t'es policier, en fait. Plus personne s'intéresse à toi, on ne parle que de ton travail. Donc, t'es mannequin, alors, t'es anorexique, tout de suite. Voilà. Est-ce que tu couches avec les photographes? T'as tout de suite des questions con, clichés. Voilà. Mais chaque métier un petit peu exceptionnel a son lot de réflexions débiles du genre.
Oui, mais du coup, c'est pas forcément évident pour... avoir une vie en dehors du travail.
Non, pas du tout. Ben, c'est ce que je te disais au début, c'est que quand tu deviens mannequin, t'acceptes que c'est ta vie, quoi.
Donc le défilé Calvin Klein est annulé.
Ouais.
Est-ce que tu le prends personnellement?
Oh, c'est horrible. Horrible. Je suis vexée comme un pou. Puis surtout, en fait, c'est-à-dire que si tu te fais annuler, tu perds un point dans ta carrière. Ton agent, il est déçu. Enfin, c'est... Ben, après, tu rebondis, hein. Et c'est très fréquent.
Tu passes beaucoup de casting?
Je passe beaucoup de casting.
Ça, c'est pas payé en revanche, les castings?
Non, tu passes beaucoup de temps à perdre ton temps.
À attendre.
À attendre. Puis souvent, tu vas au casting pour rien, parce que l'agence, je le vois bien, hein, des fois, le client n'a pas envie de voir la fille, mais l'agent l'envoie quand même en disant « Allez, sur un malentendu, ça peut-être marcher ». Le client est donc énervé parce que lui, ça lui fait perdre 5 minutes, donc il est désagréable avec toi. Les castings, c'est toute une histoire.
Donc, tu passes des heures à travailler pour...
Peanuts.
Mais
bon, ça vaut le coup quand même de... Enfin, je veux dire, t'es pas payé pendant tes journées de casting, mais quand t'es payé, t'es bien payé. Donc, ça compense.
À quel moment tu commences à réaliser cette connexion? Casting réussi, être choisi par une marque, des créateurs, égale...
Bah, je le comprends assez vite. Je pense que c'est aussi un peu la clé pour réussir dans le mannequinat, c'est qu'il faut quand même. Alors, c'est bien d'être jolie, mais si t'es complètement neuneux, tu vas pas très loin. Tu sais très bien que quand tu vas être un peu stratégique avec certains clients, ils vont te reprendre. Enfin,
stratégique, ça veut dire de la diplomatie, ça veut dire être sympa, ça veut dire
tout donner. Comme pour les acteurs, un acteur qui marche bien, c'est un acteur qui va surprendre son réal, en fait.
Donc, c'est pas que de l'apparence.
Non, au contraire. D'ailleurs, je tiens à le dire, hein, toutes les filles qui ont le plus de succès n'ont pas les règles qu'on croit. C'est-à-dire, une belle femme, normalement, on dit les mensurations, c'est tant. Le visage doit être symétrique, les cheveux doivent être comme si, elle doit avoir des grandes jambes. Là, regarde Kate Moss, elle est trop petite. Claudia Schiffer, elle est trop gros sein. Laetitia Casta, elle allait dans le travers. En fait, toutes les filles qui marchent le plus, c'est un physique qu'on remarque, ça c'est sûr, mais c'est une personnalité. Il y a que ça, quasiment. Moi, je vois plein de filles qui sont pas extrêmement jolies, mais que tout le monde rebook tout le temps parce que c'est un plaisir de bosser avec, parce qu'elles donnent tout, parce qu'elles sont très photogéniques aussi. C'est pas qu'une enveloppe, quoi.
C'est encore plus dur pour celles qui marchent pas, ce que tu dis. Ça veut dire qu'en plus de pas être assez jolies, elles sont peut-être un peu cruches ou alors elles sont pas sympas.
Non, ou alors elles sont peut-être trop timides. Voilà, ça peut être aussi ça.
Est-ce que t'as eu l'impression, à des moments de ta carrière, que ta valeur personnelle était reflétée par la valeur de tes contrats?
Non, jamais. Je me suis jamais sentie valorisée dans ce travail du tout, en fait. J'ai toujours eu l'impression d'être un imposteur. J'étais gênée de gagner autant pour ce que je faisais, quoi. Et non, les choses gratifiantes, c'est vrai qu'il y avait un truc que j'appréciais, c'est quand les photographes ou les clients avaient envie de me reprendre parce que je me disais, bon, bah voilà, ma personnalité a fait qu'ils ont envie de retravailler avec moi. Donc ça oui, t'as un petit truc un peu agréable, quoi.
Je me pose des questions sur, par exemple, mannequins un peu différents, les mannequins rondes qu'on voit beaucoup aujourd'hui, ou les mannequins vieilles, par exemple. Ouais. Est-ce qu'elles sont moins payées ?
Ah non, elles sont pas moins payées. Alors, il faut savoir que justement, une mannequin curve...
Curve,
ça veut dire qu'il fait pas un 36. Alors, t'as mid-curve, on va dire que c'est du 38-40, et t'as la curve à partir du 40-42. Voilà. Après, bon, aux États-Unis, là, t'as la plus size comme Ashley Graham. Ashley Graham, je pense que dans le ranking là, de models.com, elle doit être à peu près sur 10, elle doit être la cinquième en termes de contrat. Parce que c'est tellement rare d'avoir une très belle femme, voilà, que c'est très bien payé du coup. Voilà. Et les mannequins âgés, alors là, ça a changé. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi, quand j'ai commencé, à 25 ans, 28 ans, ça commençait déjà à être un peu. Ça sentait le roussi, quoi. Là, maintenant, à 35 ans, c'est l'âge d'or. Parce que toutes les marques de cosmétiques, toutes les marques de mode ont compris qu'en fait, les acheteuses n'avaient pas 20 ans et qu'elles avaient plus envie de se reconnaître sur, voilà, sur un âge similaire au leur, quoi.
Ah, et donc, il y a vraiment des tendances.
Il y a des tendances.
Et il y a des barèmes.
Il y a des barèmes, bien sûr. Bien sûr.
Alors, comment ça marche? Comment est-ce qu'on arrive à accoler un prix à une mannequin?
Ça fonctionne comme ça. T'as des new face. Alors, new face, ça veut dire que t'es nouvelle. Que tu commences juste à faire les défilés. Voilà. Donc, quand t'es new face, bon, bah, t'es pas extrêmement bien payée.
C'est pas extrêmement bien payé en gros
C'est le tarif minimum. Donc, c'est là où j'en viens. C'est qu'en fait, ça fonctionne comme ça. On a un barème. Ça s'appelle des T7, T9, T10. Ça va jusqu'à T50. Et le CINAM, qui est le syndicat des agences de mannequins, fixe le tarif, en fait, pour T7, T8, T9, etc. Donc, tous les ans, c'est revalorisé. Et d'une agence à l'autre, le T7 varie d'une centaine d'euros ou de 200 euros. Dans mon agence, un T7, il correspond à 1800 euros. Donc, ça, c'est le tarif de base pour une prestation de mannequin.
Une prestation, c'est un défilé ou une séance photo ?
Voilà, c'est ça. Alors, le défilé, il n'est pas payé exactement de la même manière parce que c'est moins de temps de travail. Voilà. Mais tout est rangé, en fait. Tout ça, c'est décidé.
Mais ça peut varier d'une agence à l'autre.
Une agence plus prestigieuse, son T7 minimum peut aller jusqu'à 2000 euros. Voilà.
En gros, c'est une journée de travail.
C'est une journée de travail. Donc, comment on décide quelle fille fait quel prix, à quel prix? Une fille qui va avoir des publications dans du Vogue Paris va coûter plus cher qu'une fille qui va faire le magazine Voici.
Automatiquement, elle, mécaniquement.
Voilà. En fait,
elle monte de.
Quand une fille commence, on essaye d'aller jusqu'au plus haut, en termes d'image et en termes de qualité de client. Et très vite, on sait si elle va l'atteindre ou pas. Et donc, c'est ça qui va déterminer son prix.
Est-ce que parfois, les clients, justement, essayent de négocier à la baisse le tarif d'une mannequin ?
Alors, les clients veulent toujours négocier à la baisse. Par exemple, il y a certains clients qu'on connaît bien, des marques qui refusent de prendre des mannequins qui n'ont pas fait de défilé, par exemple. Ils veulent que des mannequins qui sont un petit
déjà
peu connus,
senior, un
qui
peu.
Ont qui a un bon niveau. Voilà. Il y a quelque chose, par exemple, pour être respecté dans le milieu en tant que mannequin, il faut avoir un profil sur models.com. Quand tu as un profil sur models.com, ça veut dire que tu es validé par la communauté, par tout ça, et que donc du coup, tu peux monter en tarif.
Qui le crée, ce profil ? Comment tu te retrouves ?
C'est les agences, mais il y a des règles pour pouvoir l'avoir. Donc, pour pouvoir l'avoir, il faut avoir une prestation éditoriale type Vogue, par exemple, un défilé pour une grande marque, plus une campagne pour, Dura Tods ou j'en sais rien. Et là, ils acceptent que tu rentres dans models.com.
Est-ce que c'était arrivé en tant que mannequin de discuter le montant de tes prestations, de dire mais non, c'est pas assez
Avec mes agents, tout le temps.
Tout le temps?
Oui, on a tout le temps discuté, on se met d'accord ensemble, voilà. Mais après, moi, ça m'est arrivé, par exemple, bon, comme j'ai dit, j'avais un peu de succès, donc il y avait des moments où j'avais pas envie de travailler parce que j'étais fatiguée. Mais on me poussait quand même, on me disait allez, encore un shooting. Et j'ai dit non, à moins de 10 000, je viens pas. Et ça m'est arrivé de dire ça. Alors, quand j'y pense maintenant, ça me fait vraiment rire parce que. À 8000 ou 5000 ou même 800, là, je viens. Mais ouais. Ouais, des fois, tu peux imposer en disant non, je me déplace pas pour ça.
C'est ouf, quand tu lâches cette phrase, ça doit être un moment. Mais tu vas sentir assez puissante en même temps.
Ouais, puissante ou puante aussi un peu. Mais en même temps, en fait, ça devient un jeu. Tu sais, t'as 18 ans, t'es avec des gens qui bossent, on fait du vêtement, quoi. Il n'y a rien de grave, en fait. Tu vois, t'es pas en train de sauver des vies. Donc, à un moment donné, ça devient un peu un jeu.
T'as réussi à te faire une cagnotte, à mettre de côté
Alors, j'avais réussi plus ou moins, puis je suis tombée enceinte, donc je me suis arrêtée pendant un petit moment.
À quel âge
19 ans.
Oh.
Ouais, donc ça a un peu stoppé la success story, justement. Bon, à la clé, j'ai eu un super petit garçon, donc l'échange valait le coup.
Tu peux plus travailler quand t'es enceinte.
Bah non, tu peux plus travailler du tout. Puis surtout, à l'époque aussi. Alors maintenant, les mannequins qui ont des enfants, tous les clients adorent ça. On voit beaucoup d'éditos avec des familles. Mais avant, avoir un enfant, c'était un peu honteux quand t'étais mannequin. Parce que ça voulait dire que t'étais plus disponible. Ça voulait dire que ton corps prenait cher. Tout ça, tout ça. Donc oui, je fais cet enfant au moment où ça commence à stagner sur mon succès. Donc c'était le pire moment pour faire ça. Et c'est au moment où, du coup, ma carrière a un petit peu chuté. À ce moment-là.
T'as pas d'indemne, t'as pas de...
Alors, rien du tout. Et c'est ce que, au tout début de notre conversation, j'essayais de te dire qu'en fait, en France, on n'a pas de statut. Et je tiens à en parler parce que je trouve ça vraiment dommage. On est quand même la capitale de la mode. Et mannequin, ça n'existe pas comme travail en France. On n'a pas de statut. Donc, on est en fait salarié cadre. Mais comme on ne fait pas les mêmes heures qu'un cadre, quand on tombe enceinte, on n'a pas le droit au congé mat. Et un congé mat pour une mannequin, c'est 1 an.
Le temps de se remettre physiquement, de pouvoir retravailler.
Tu comptes, hein, c'est 9 mois de grossesse.
Ouais.
Voilà. Moi, j'ai accouché en septembre. Le 1er janvier, j'étais sur les défilés. Et autant te dire que c'est sportif d'un point de vue corps.
Et t'as dû faire des régimes, du sport, des choses comme ça, ouais.
Ah bah oui, j'étais obligée. Bon, j'avais 20 ans, donc ça va. Mais la précarité, elle s'installe là, en fait, pour les mannequins. C'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'on n'ait pas de statut en France met les filles en danger.
Donc, du coup, pendant que t'es enceinte, tu finances tout personnellement.
Voilà, sur tes économies. Exactement.
Et tu te retrouves à sac quand tu reprends le travail?
Ah, bah oui, ça commence à être un petit peu chaud. Puis tu sais, quand tu vis à New York, le loyer, c'est pas donné.
Bah, en plus, tu devais avoir des habitudes de pas te poser de questions.
Oui, exactement. Ça a commencé à être un petit peu difficile à ce moment-là. Et c'est très compliqué quand t'as un enfant et que t'es mannequin, puisque t'as pas des horaires du tout, et puis tu travailles à l'étranger, et machin et tout. Donc, trouver une nounou qui a envie de se coltiner une famille comme nous, autant te dire que ça, voilà. Donc, ou tu la payes 5 000 $ par mois et elle est dispo tout le temps, ou elle est jamais là. Enfin, elle te plante, quoi.
Toi, t'es rentrée dans ce système-là?
Moi, j'ai été obligée à un moment, oui, de prendre une nounou. Alors, on a eu de la chance, donc, le papa de mon fils faisait un métier similaire au mien. Il était assistant photographe. Donc, du coup, on échangeait l'enfant au moment où lui, travailler, moi je travaillais pas, on se débrouillait comme ça, mais bon, tu te doutes bien que du coup ça a créé des tensions monumentales parce que nos carrières étaient...
Concurrence de carrière.
Voilà.
Non, c'est moi, non, c'est moi.
Voilà, exactement. Bon, c'était quand même moi qui payais le loyer, donc en théorie j'aurais dû avoir un peu plus la priorité, mais enfin bon, on reste dans un couple hétéro, c'est quand même souvent la femme qui reste à la maison.
Et t'as fait ça?
Ouais.
Donc t'as un peu sacrifié ta carrière?
J'ai sacrifié ma carrière complètement pour mes enfants et pour mon mari, oui, complètement.
À un moment, tu t'es retrouvée dans la dèche?
Je me suis retrouvée dans la dèche plein de fois. Plein de fois. Et ça, le problème avec ce métier, c'est qu'en fait, c'est un peu... Je dis souvent cette phrase. Quand tu deviens mannequin, tu gagnes au loto, mais tu sais pas combien et tu sais pas quand tu vas être payé. Pendant 6 mois, t'as pas de prestations, tu galères. Puis là, d'un coup, t'as Cartier qui décide de te prendre pour faire une pub avec Clapiche et tu touches 20 000 balles, tu vois. Donc, c'est un peu... c'est au petit bonheur, la chance. Tu peux pas trop prévoir.
Est-ce qu'au bout d'un moment, t'es quand même rassurée en te disant bon, bah, c'est bon, j'ai été repérée plein de fois par plein de marques.
Oui, oui, je me suis dit.
Il y aura des hauts et des bas, voilà. Mais globalement, là, c'est bon, j'ai la carte,
c'est
quoi.
C'est ça. Par contre, il y a des moments où psychologiquement, il y avait des trucs où je me disais, mais je peux plus faire ce boulot, c'est n'importe quoi, j'ai envie de faire quelque chose de ma vie, j'en ai marre d'être tout le temps à attendre. En fait, j'avais l'impression d'avoir une vie en option, tu vois. C'était, alors peut-être je vais là, peut-être je pars là, peut-être pas, peut-être oui.
Difficulté à se projeter, difficulté voilà. À prévoir.
Et en fait, je me suis laissée entraîner, et puis c'est passé 10 ans, 15 ans, et à un moment donné, je me suis réveillée, je me suis dit, mais en fait, là, autant demain, j'ai plus du tout de prestations parce que bah, j'ai passé 35 ans et comment je fais pour payer mon loyer quoi. Parce que ça s'arrête très brutalement. Tu vois pas trop venir parce que t'as des clients réguliers à un moment puis d'un coup il y a plus rien. Toutes les mannequins ont eu des moments de grosses dèches et de gros problèmes. Et encore une fois j'insiste sur le fait qu'être mannequin c'est d'accord, tu peux gagner des sommes astronomiques, mais c'est un métier très précaire. Parce que quand tu vas dans une agence immobilière pour louer un appartement, personne ne veut t'en louer un, parce que tes salaires sont trop irréguliers, que la réputation d'une mannequin n'est pas en fait très 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 respectée.
Mais oui, c'est ça, il y a un côté voilà. Volage, fofolle.
Exactement, t'as quand même une image à te frapper. La banque, pour faire un emprunt, bah, pareil, tu vois, c'est précaire. Et puis du jour au lendemain, ça peut s'arrêter encore une fois, tu te casses une jambe. T'as un orgelet, tu peux pas bosser.
Un bouton?
Ouais. T'as besoin de prendre un traitement parce que tu fais une dépression et ben t'es caché, ils te filent 10 kilos, ben, tu peux plus bosser.
Ça est arrivé à comment elle s'appelle la mannequin allemande là,
Linda Evangelista.
Ouais.
Ouais. Voilà, tu vois, c'est là où ce métier il est un peu bâtard.
C'est marche ou crève quoi.
Ouais, c'est marche ou crève. C'est marche ou crève.
Marche ou crève plus. Alors, j'ai l'impression qu'il se construit en à côté de ses rémunérations qui peuvent être pharaoniques, éventuellement une dégradation de l'image intérieure.
Complètement, complètement. Mais alors je veux absolument insister sur un truc, c'est qu'il y a plein de mannequins qui y arrivent très bien et qui tout de suite rentabilisent le truc parce qu'elles viennent de bonnes familles. Quand tu es issu d'une famille pauvre et qu'on te balance 10 000 balles dans la tronche, tu fais n'importe quoi. Quand tu as été éduqué dans une famille avec de l'argent, tout de suite, tu es encadré. Et on fait fructifier ça. Et ben, j'ai un très
bon. T'as vu la différence, toi?
Ah, j'ai vu la différence. Entre les filles qui ont grandi dans des familles avec de l'argent et les filles qui viennent de familles pauvres, c'est systématique. Systématique. Les filles de bonne famille s'achètent un appartement, investissent, voilà. Et s'en sortent très, très bien. Alors, évidemment, il y a des exceptions. Hein. Natalia Vodianova a très bien réussi, alors que, bon, c'était très mal parti pour elle. Mais globalement, c'est ça, en fait. Quand tu viens d'un environnement similaire, enfin, on va dire, on t'aide à arranger ta vie et ça se passe bien. Mais quand tu viens d'une famille pauvre, ça ne marche pas.
Il y a une dimension conte de fées qui existe toujours chez les mannequins. Il n'y a plus de top modèle.
Il y en a encore. Il y a, en fait, ce n'est pas des top modèles, c'est des influenceuses célébrités, type Famille Jenner, Cara Delevingne, par exemple. Toutes ces, voilà, il y a beaucoup de mannequins qui sont connus aussi grâce à leurs parents, grâce à... Voilà.
Mais on a peut-être moins ce côté conte de fées qu'on pouvait avoir justement dans les parcours de Claudia Schiffer, Laetitia Casta, Naomi Campbell.
C'est pas ça, c'est qu'en fait, au grand public, on le voit moins. Mais pour moi, il y en a plein des top modèles là, en ce moment. Mais je te dirais les noms, ça ne te dirait rien.
Voilà, elles occupent moins l'espace médiatique en
voilà.
tout cas.
Mais c'est parce qu'en fait,
c'est moins présent dans nos vies à nous les
petites gens. Parce qu'il y a mille fois plus de mannequins maintenant.
Ah.
Qu'avant. Avant, t'avais 5-6 filles qui étaient connues et puis 2-3 autres et puis la saison d'après, ça changeait. Là maintenant, chaque saison, t'as 50 000 filles qui potentiellement vont ouvrir le défilé Chanel et la saison d'après disparaître.
Donc il y a plus de précarité aujourd'hui?
Non,
ou il y a plus d'opportunités.
C'est qu'il y a plus de choix. Les critères sont, comment dire, ont changé. C'est-à-dire qu'avant, c'était quand même essentiellement des grandes filles minces, belles, blondes, voilà, caucasiennes. Maintenant, on a beaucoup de mannequins asiatiques, ce qui n'existait pas avant. On a beaucoup de mannequins noirs. Alléluia.
Ouais, alors ça, c'est la grande nouveauté un peu de ces dernières années.
Ça, exactement.
Et on voit apparaître, moi j'ai vu des interviews sur des plateaux de télévision par exemple, de jeunes filles qui viennent du Soudan, qui viennent d'Éthiopie.
Oui.
Et alors là, la dimension conte de fées, elle est très très forte. C'est-à-dire
alors, je mets un bémol tout de suite, c'est un scandale d'aller chercher les filles dans des pays en guerre, hein, parce que quand même, faut pas pousser. La success story dans ce cas-là, ça peut te dire, ah oui, tiens... Génial, elle vient d'un pays en guerre et elle est devenue top modèle. Moi, je me mets à la place de la personne qui a été la chercher dans le camp. Je me dis, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire? Il y a des mannequins qui sont en France, qu'on a fait venir, qui ont marché 5 minutes et qui marchent plus. Elles peuvent plus rentrer dans leur pays. Elles ont pas de papier parce qu'elles ont plus de contrat et elles sont en dette. Donc, la success story de la petite nana qui vient d'un pays en guerre, moi, je...
Ah oui, parce que si ça s'arrête, si son contrat n'est pas renouvelé, si elle ne marche pas...
En fait, une agence...
On en fait quoi?
C'est horrible, hein, mais faut se souvenir qu'un mannequin, c'est un produit pour l'agence. Donc, quand le produit est plus rentable, on l'enlève.
On a l'impression d'un monde assez far west.
Ouais.
Un monde avec énormément d'argent...
Et pas beaucoup de structures, pas beaucoup de...
Un peu tout est permis, on regarde pas trop ce qui s'y passe.
C'est ça. Il y a plein d'erreurs qui peuvent se passer, tu vois. Par exemple, t'es un mannequin français qui vit aux États-Unis, puis bah, ton employeur va te déclarer comme travailleur étranger. Donc, arrivé devant les impôts, t'as fraudé, tu vois. Rien n'est encadré proprement. Et même les agences ont du mal à faire les choses bien.
Alors, toi, t'as fait le move. Si c'est pas 10 000 balles, je bouge pas une oreille.
Oui, bon, ça, je l'ai fait une fois. Hein. C'était pour la blague. Hein, mais,
mais tu l'as fait. Est-ce que ça arrive plus concrètement que les mannequins menacent de changer d'agence?
Oui.
Qui se renseignent, qui déjeunent, par exemple, avec quelqu'un d'autre pour savoir.
Bien sûr. Bon, après, bon, le mannequinat touche plein d'environnements. C'est-à-dire que t'as le luxe, mais t'as aussi le mass market. Là, c'est complètement différent. Mais dans le luxe, voilà, il y a des mannequins très, très connus qui vont travailler pendant 20 ans avec un agent. Puis du jour au lendemain, ça lui pète parce qu'il a dit une phrase qui lui a pas plu et elle va rompre son contrat. on est un peu dans un monde où tout le monde fait un peu n'importe quoi quand même.
Tout est permis.
Ouais, un peu. Un peu.
C'est qui les gens qui comptent dans ce monde-là? Qui comptent au sens comptable? Qui regardent la compta, qui regardent l'échec, qui regardent si ça tient?
Alors, bah, les patrons d'agence. Les patrons d'agence, clairement.
Donc là, c'est plutôt des hommes ou c'est d'anciennes mannequins?
Alors, c'est plutôt des hommes et c'est en général plutôt des financiers. Hein, c'est des gens qui ont compris le filon. Très souvent, les patrons d'agence viennent de gros groupes type Danone. Voilà, il y en a, ça arrive assez souvent.
C'est des reconversions.
En fait, ils achètent et ils investissent. Mais par contre, il y a toujours une personne qui, elle, est dans le milieu de la mode pour faire la direction du booking ou ce genre de choses comme ça que ça fonctionne.
Toi, tu fais quoi maintenant?
Maintenant, moi, je suis scouting. Donc, je m'occupe d'aller trouver les nouveaux profils. Mon travail, c'est d'optimiser mes trouvailles. Donc, c'est-à-dire quand je trouve une nouvelle fille, je la propose à des photographes pour lui construire son book, etc. Donc, moi, je manipule pas trop d'argent, ce qui me va très bien.
En revanche, est-ce que tu es capable de faire passer une fille qui vaut T7 à T10 à T15? Et comment tu t'y prends?
Tu t'arranges pour qu'elle ne fasse que des photos où elle est au top du top, tu vois. Par exemple, si tu la vois sur un catalogue qui habille, tout de suite, tu vas dire « Ah, c'est moins jolie ». Donc, tu as intérêt à toujours garder un certain niveau. Tu n'autorises que les gens de l'élite à l'approcher. C'est comme ça que tu rends une fille chère.
Et si elle te dit « Ah non, mais là, j'ai trop besoin de thunes
». On est obligé de le cacher à des moments. On l'envoie faire un truc un peu pourri en espérant que personne ne le voit.
Tu peux aller jusqu'à lui avancer de l'argent
Ça peut arriver. Ça peut arriver, oui. Tout à fait. Après aussi, encore une fois, quand on croit dans un mannequin, ça peut prendre du temps. Donc évidemment, c'est un investissement. Donc parfois, oui, on avance quelque chose. On peut.
Et t'as quand même une grosse pression financière parce que si tu te trompes, si tu...
Yeah, mais on a une marge de manœuvre, on est obligé. On sait très bien que tous les profils qu'on prend ne vont pas tous marcher.
Et tu leur loues des appartements tout nazes?
Non, alors justement, c'est là où en fait, j'ai pris ce travail, je suis rentrée dans cette agence, j'ai vraiment énormément de chance que mon patron est très humain et on est tous un petit peu sur la même longueur d'onde par rapport à comment traiter les mannequins. Il y a plusieurs façons de fonctionner quand t'es une agence. Tu peux prendre 40 filles et te dire il y en aura toujours une qui marche. Ou tu peux en prendre 10 et tout miser et travailler très très dur pour que ça fonctionne. Donc nous, les filles, elles n'ont pas d'appartement de mannequin en dortoir. On leur loue des Airbnb.
Et t'es passé, toi personnellement, de revenus complètement imprévisibles, mais qui pouvaient être très conséquents,
oui, mais
à un salaire.
Voilà, alors je pouvais avoir des belles prestations, voilà, mais ne pas travailler pendant 6 mois aussi. Et il y a une autre chose, c'est que donc en France, ce qui est bien, c'est que comme le système, le droit du travail est assez bien rodé, quand tu travailles début du mois, à la fin du mois, t'es payé. En Espagne, c'est pas la même chose. Tu fais une prestation, ils ont jusqu'à 90 jours pour te payer. 90 jours, c'est très très long. Et quand tu pars...
On sent que ça a été long personnellement.
Oui, non, ouais. Ça a été très très dur. Et moi, par exemple, je vais prendre l'avion, donc je vais prendre un taxi pour aller à l'aéroport, donc 50 euros. Après là-bas, 50 euros, encore 50 euros, encore 50 euros. Tout ça, évidemment, est payé par le client. Mais tant qu'il n'a pas payé la prestation, moi, ces sous-là, ils sont dehors. Donc si je bosse 10 journées par mois...
Toi, en tant que mannequin, tu veux dire?
Moi, j'avance tous mes frais et après, ils me remboursent. Mais s'ils mettent 3 mois à te rembourser pendant les 3 mois que tu as fait 18 allers-retours en taxi, ben, tout cet argent-là, il est dehors.
Tu as quand même tes notes de frais, j'imagine,
oui.
Sur tout ce que tu fais, quand tu manges, quand tu sors, quand tu te déplaces, non?
Non, pas tout le temps. Comme je te dis, voilà, tu avances des frais qui sont remboursés très longtemps après. Donc, parfois, tu sors un peu de l'argent pour aller travailler. Donc, ça peut être très précaire.
Problème de trésorerie,
effectivement. Et comme je te dis, voilà, pendant 6 mois, tu ne travailles pas. Donc, oui, tu as eu un cachet à 10 000 euros. Tu as intérêt à bien calculer ton coût. Parce que si tu ne travailles pas les 3 mois qui suivent, des fois, tu attends encore 6 mois pour être payé.
À quel moment tu as commencé à être un peu économe, à faire un peu attention à ce que tu dépensais justement à
Jamais. C'est bien le problème. Et alors, j'ai acheté un appartement quand même.
À Paris?
À Limoges. où j'ai fait un très mauvais investissement parce que j'ai acheté un truc qui est un peu pourri et qui a perdu de sa valeur. Enfin bref, passons. Mais non, ouais, j'ai pas du tout été économe et c'est pour ça que j'essaye de faire bien mon travail maintenant avec les filles, c'est de bien les guider pour qu'elles ne tombent pas dans des...
Tu leur parles de thunes?
Ouais, je leur parle de thunes, bien sûr. Et je leur dis, c'est quand tu gagnes 1000 euros, tu mets 100 euros de côté. Tout le temps. C'est obligatoire. Et surtout, de finir leurs études, de ne pas considérer le mannequinat comme le cœur de leur vie parce que sinon tu t'y perds.
Ça a été compliqué de changer de carrière ?
J'ai eu une petite transition parce qu'en fait, bon, clairement, il y a eu un moment donné où ma carrière s'est vraiment clairement ralentie. Donc, c'est là où j'ai commencé à faire un petit peu plus de trucs type l'halo vêtements, les trucs moins prestigieux. Puis tu sais, au fur et à mesure, ça décline, ça décline, ça décline.
Oh là 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 là.
Au fur et à mesure, tu as des prestations de plus en plus éloignées des unes des autres, c'est de moins en moins bien payé. Puis à un moment donné, tu réagis, tu te dis, oula, ça sent le roussi, je suis plus dans le coup, faut que je fasse autre chose. J'ai eu de la chance, j'ai commencé à faire du casting à ce moment-là. Et donc, j'arrivais à faire et mannequin et casting. Donc, j'ai eu cette petite transition au freelance.
On t'a fait confiance.
Ouais.
Ce qui n'est pas forcément évident.
Non. Non, mais c'est vrai que c'est... En plus, tu sais, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure en disant quand t'es mannequin, ça change un peu la vision des gens sur toi. T'es pas très crédible quand t'es mannequin. On te trouve pas fiable. Les gens pensent qu'une mannequin n'est pas fiable.
C'est vraiment ça l'image. Hein, c'est...
Mais, et en même temps, c'est pas si faux que ça, dans le sens où... moi, ma mère, par exemple, un jour, elle m'a dit, tu sais, maintenant, on t'invite plus parce qu'on sait jamais si tu vas venir. Donc, tu nous dis, oui, je serai là le week-end prochain. On t'écoute plus. Eh oui. Ma petite sœur en a beaucoup souffert. Je m'étais mis un code où c'était obligatoire. Le jour de son anniversaire, j'étais avec elle tous les ans. J'ai presque tenu tous les anniversaires. Mais pour elle, c'était quelque chose d'inconcevable qu'on puisse pas prévoir à l'avance de partir en vacances ensemble.
Et donc, malgré tout, on te fait confiance pour faire des castings. Et donc, ça te permet une reconversion.
Alors, on ne fait pas confiance tout de suite. Je me retrouve assistante au début. Je me retrouve assistante.
Ah, donc tu recommences une carrière.
Et je change de fusil d'épaule. Du coup, je suis de l'autre côté. Et ça m'a beaucoup aidée à pardonner, en fait, toutes les insécurités, toutes les choses qui m'avaient un petit peu abîmée avec le mannequinat. Parce que d'être de l'autre côté, je me suis rendu compte de la pression aussi des gens qui décident quel mannequin va être sur le défilé. Ça m'a fait ouvrir un peu en fait, mes yeux sur comment le reste du milieu est. Parce que être mannequin, c'est une chose, mais le milieu de la mode est précaire financièrement pour plein de métiers.
En dépit des sommes d'argent monumentales.
C'est contradictoire, mais oui. Tu sais, dans les grandes maisons de couture, les petites mains, les stagiaires sont payés 400 euros par mois. Et ils font des robes qui coûtent 10 000 euros. C'est comme ça. Mais c'est parce qu'ils ont le prestige de travailler là-bas. Il y a énormément de gens qui travaillent gratuitement pendant plusieurs mois, plusieurs années, avant d'être payés vraiment bien. C'est c'est un très long chemin avant que ça paye.
Oui, bah ça, on a fait un épisode dessus et on s'est rendu compte d'ailleurs souvent que les gens qui pouvaient tenir tout ça, c'était des gens qui éventuellement avaient déjà des moyens. Mais...
Oui, voilà. Mais c'est une carrière artistique qui n'est pas sans risque.
En revanche, les mannequins, ça peut attirer vraiment toutes sortes de gens.
Ah oui.
Est-ce que t'as des gens très prolétaires ?
Oui, bien sûr, il y a tout. T'as tout.
T'as des gens de famille pauvre, t'as des gens de la très haute.
Ouais, bien sûr. T'as Noémie Lenoir, par exemple, qui était très connue quand elle commençait à être mannequin. Elle avait un petit accent Kaira. Et son agent lui avait fait prendre des petits cours de diction, tu vois.
Donc t'as recommencé du début, en bas de l'échelle, pour être apte à travailler dans une agence de mannequins de l'autre côté, comme tu dis.
Et en ayant 20 ans de travail dans les pattes, mais jamais été salariée, j'avais jamais été dans un bureau, j'avais jamais eu une adresse professionnelle, j'avais jamais eu des horaires.
T'as négocié ton premier contrat ?
Non, j'ai pris...
T'as dit merci, juste ?
Oui, c'est ça, je commence quand ? C'est très marrant de commencer à 37 ans une autre vie, quoi.
Et tu commences, t'es payé combien ? Bah, c'est juste là, ça vient d'arriver en fait.
Ah ouais, ça vient d'arriver. Bah, je suis payée bien pour mon expérience. Je rappelle que j'ai ni le bac, ni rien du tout. Je n'ai zéro formation, rien du tout. Je n'ai que mon expérience de mannequin.
T'es à quoi, 3000 euros ?
Ouais.
Sur 12 mois avec.
Oui. Oui, avec des petites primes.
Des petites primes ? Mmh. Pas spécialement de notes de frais, mais un CDI.
Ouais, après, bon, j'ai quand même pas mal d'avantages. J'ai une super mutuelle, j'ai les tickets resto, tout ça. J'ai quand même des vacances, enfin, tu vois.
C'est plus la même vie, quoi. C'est plus le même rapport à l'argent.
C'est plus du tout la même chose.
Là, c'est stabilité.
C'est ça, et ça fait énormément de bien.
Est-ce que tu as encore gagné au loto de la vie ? Ce que je veux dire, c'est est-ce que tu connais des mannequins qui n'ont pas forcément réussi à faire ce
changement ? Ouais. Ben, j'en vois... qui mettent du temps à le faire et j'ai beaucoup d'amis mannequins et qui ont toutes des parcours différents. C'est très difficile de se réadapter à une vie de travail normale.
Donc il y en a qui prennent leur retraite parce qu'elles ont mis de côté, qu'elles ont
bien placé. Il y en a qui se marient avec des mecs riches.
Ah oui, c'est une autre façon de monnayer sa beauté.
Ouais, mais il y en a beaucoup des mannequins qui font ça. Beaucoup de filles se mettent avec des mecs friqués. C'est très fréquent.
Est-ce que tu crois que c'est une façon encore de monnayer sa beauté ou est-ce que c'est quand même dans le narratif des histoires d'amour?
C'est quelque chose de, c'est un réflexe, une injonction sociale, c'est-à-dire t'es jolie donc tant qu'à faire autant pas travailler. Je pense qu'il y a un espèce de truc comme ça, on est conditionné à prendre ce genre de décision.
Et
j'ai l'impression c'est.
Et t'es un trophée.
Ouais,
un peu.
Complètement.
Voilà.
Complètement.
Donc il y a un mec qui paye pour que tu sois.
C'est ça. Tu sais, je pense que les mannequins, le truc qui les complexe le plus, c'est de pas être considérés pour leur personnalité, pour leur intelligence ou quoi. On a toujours l'impression d'être un cintre, quoi, et de pas être écouté. C'est le gros complexe. Donc, je pense qu'il y a pas mal de filles qui se résignent et qui se disent bon, allez, tant qu'à faire, autant que je vive dans un super appart et que je parte en vacances où je veux. Je peux comprendre.
Tu t'es fait draguer par des mecs riches ?
Oh là là, tout le temps. Puis alors, draguer, c'est pas vraiment le mot. Je dirais plus, je te veux, fais ce que je dis.
Mais j'aligne.
Enfin, ouais.
Éventuellement, ils vont flamber devant toi.
Non, mais il n'y a pas choses. Ça, il n'y a pas vraiment, on ne va pas prendre de pincettes du tout. Les mannequins sont sollicités que par des gros connards qui fonctionnent comme ça. C'est, voilà. Et on est des proies à ce genre de personnages.
Avec vraiment une dimension d'achat, c'est-à-dire et des gens très très riches éventuellement. Tu as accès à des sphères de la société qui sont...
Complètement. Puis alors là, il y a Dubaï, par exemple, et les mannequins, là, c'est quelque chose, ça. Là, c'est devenu l'Eldorado.
Parce qu'elles sont mieux payées là-bas ?
Non, parce qu'elles se font entretenir par des types et que c'est de la prostitution déguisée, clairement.
C'est pas très loin, hein, forcément. Enfin, en tout cas, il y a une porosité.
Ouais, alors attends, il y a un truc aussi que je voulais te dire. C'est le seul métier au monde où les femmes sont mieux payées que les hommes.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé des hommes.
Et c'est déplorable, effectivement. Oui, on peut faire le lien entre le mannequinat et la prostitution. C'est vrai. Mais pas sur l'univers que le grand public voit. C'est-à-dire que les belles filles des défilés, les Claudia Schiffer, les tout ça, c'est une autre histoire. Voilà, cet aspect-là là, de prostitution, il va être plus sur des mannequins qui sont justement précaires, pas connus, avec des petites carrières.
En galère, quoi.
En galère, ouais.
Qui ont besoin de fric, en fait.
Ouais, voilà.
Et qui vont pas être rassurées par rapport au fait qu'elles en auront...
C'est pas parce qu'on est dans la mode que ça change, en fait. Quand tu es né dans la merde, tu y restes. Que tu sois dans la mode ou pas.
Et c'est malgré tout une prostitution de luxe, quand même, éventuellement. En tout cas, ça peut. Tu as accès, donc, à des...
Oui, puis alors, sur l'aspect prostitution, enfin, attention, hein, les mannequins sont pas des putes, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Hein.
Non, on dit qu'il y a une porosité, je suis bien d'accord.
Mais ce que je dis, c'est que le rapport des personnes envers la mannequin va tendre à ça. Et par exemple, ça m'est arrivé en production, en voyage, que le photographe estime que oui, il pouvait tirer son coup puisqu'il m'avait décroché ce contrat. Donc, ça lui posait pas de problème de toquer à la porte et de se dire, bon, bah, je dors là. Et c'est là où il y a un rapport qui tend vers la prostitution.
Vachement compliqué,
c'est
que, ouais.
C'est qu'ils comprennent pas la distance, en fait, entre le fait de choisir une fille pour faire des photos et choisir une fille parce qu'elle suscite un intérêt sexuel chez lui. Et c'est le grand problème, c'est que moi, quand je regarde une fille, que je décide qu'elle est belle et qu'elle a un potentiel, je n'y réfléchis pas avec une envie sexuelle. Un homme va être beaucoup moins objectif. Et c'est pour moi le grand problème, c'est ça.
Ah, t'as l'impression que éventuellement,
en fait, un mec,
des hommes peuvent se tromper dans les castings.
Oui, parce qu'ils ont envie.
Parce qu'ils sont attirés.
Voilà, ils arrivent pas bien forcément à. Donc heureusement, maintenant, on a beaucoup moins d'hommes hétérosexuels qui ont le pouvoir. Merci, la vie. Ça fait du bien. On a beaucoup d'hommes gays, donc du coup, il y a beaucoup moins ça. Et ça, c'est vraiment chouette. Par contre, malheureusement, les hommes gays restent des hommes. Et pour les mannequins hommes, c'est devenu moins facile.
Ah ouais. Et alors, les mannequins hommes, ils sont payés combien de pourcents moins à peu près que les mannequins femmes ?
Je dirais, en fait, bon, disons, sur un défilé, une mannequin femme, on va dire, elle gagne 1500. L'homme, il va gagner 800. Donc, c'est une belle différence quand même.
Toi, tu avais aussi... un regard alerte sur les mannequins enfants.
Oui, c'est-à-dire que j'ai partagé des prestations avec des enfants. Ça m'est arrivé de shooter avec des enfants et j'ai toujours trouvé ça très difficile pour eux parce qu'aucun enfant ne peut se dire « j'ai envie d'être photographié », en fait. C'est pas normal.
À part par son papa et sa maman.
Oui, voilà. Alors, ça peut être un jeu, ça peut être machin, mais enfin, Un enfant, au bout de 10 minutes, il en a marre.
Un enfant, il n'a pas envie de travailler, peut-être.
Non. Et puis, quand il fait 40 degrés et qu'on doit apporter des doudounes parce qu'on fait des photos pour la collection d'hiver, il y a chaud, ça le gratte, les chaussures, elles sont trop petites, ça lui fait mal aux pieds. Enfin, c'est un enfant, ça l'emmerde. Donc, c'est compliqué. Et puis, surtout qu'en plus, en France, une prestation enfant, on ne peut pas gagner plus de 300 euros, vraiment, parce que c'est payé à l'heure, hein, que les tarifs sont très cadrés. Donc, on ne peut pas dire qu'on le fait pour l'argent pour lui plus tard. Donc, je trouve qu'il y a quand même une projection des parents qui ont envie que leurs enfants soient photographiés, et aussi l'aspect financier, je trouve pas ça très sain.
C'est des parents qui ont besoin d'argent éventuellement.
Non, parce qu'ils touchent pas l'argent. Les parents peuvent pas toucher l'argent, donc ça, heureusement. Tout est mis sur un compte en caisse dépôt, donc heureusement il y a pas ça. Aux États-Unis c'est peut-être différent, je sais pas, mais en tout cas en France c'est comme ça. Et c'est très réglementé. Les enfants ne peuvent travailler que le mercredi après-midi, le week-end. Pas plus de temps d'heure selon leurs âges. C'est très, très, très réglementé.
De ce que je comprends, j'ai l'impression que vendre son image dans ce milieu-là, vendre sa beauté, ça peut coûter très cher pour les gens les plus fragiles.
Oui, c'est ça peut être très dangereux, ouais.
Tu peux gagner beaucoup.
Ouais.
Mais
à quel prix?
Tu peux le payer
Bien sûr.
Assez cher.
Mmh, exactement.
Elles font quoi, alors, pour finir, tes copines mannequins qui ne se sont pas reconverties comme toi?
Alors, il y en a qui galèrent et qui espèrent encore toucher des contrats. Il y en a qui, donc, du coup, se bradent un petit peu et travaillent en direct, alors sans agence, pour toucher plus, que plein de filles pensent que travailler en direct vont leur apporter plus que...
Sans agence, ah ouais, voilà. Elles ont basé...
Elles n'ont pas le droit, hein, je précise, c'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas vendre ton image sans avoir une licence pour le faire. Donc en fait, une mannequin qui va travailler pour je ne sais quelle marque gratuitement en direct avec la marque, c'est illégal. Les trois quarts des gens ne le savent pas, mais ça l'est. C'est illégal, en fait. Tu n'as pas le droit de vendre ton image comme ça.
Donc, elles font un peu du black market. Elles font du black, quoi.
Elles font du black sans faire... Enfin, voilà. Et donc, elles font beaucoup ça. Et c'est précaire parce que, du coup, elles dealent leur contrat toutes seules. Plein de filles se font avoir. Les photos sont utilisées plus longtemps que prévu, etc., etc.
Elles cassent le marché.
Elles cassent le marché complet. Mais elles cassent le marché, mais parce que je peux comprendre. Sur 1000 euros que le client va payer... La fille, elle va en toucher 300 à cause des taxes et de la commission d'agence. Je précise.
C'est beaucoup, hein.
Je précise que les charges salariales sur un contrat de mannequin plombent le salaire de la mannequin très très fort et que l'agence, faut bien qu'elle gagne sa croûte, est obligée de prendre une commission. C'est quand
elle
même
prend
normal.
Combien à peu près la
20%.
20%. Voilà. L'agence prend 20%, d'accord.
Voilà. Et le client qui va payer 1000 euros, lui. Il va payer plus que 1000 euros parce qu'en fait, l'agence prend aussi une commission sur lui. Donc, c'est plus 20% pour le client. Donc, le client, il va payer, disons, 1500 euros et la fille, elle va toucher. Donc, le client, il se dit, je vais appeler la fille puis je vais lui proposer 800 euros. C'est plus avantageux pour elle, plus avantageux pour moi. Voilà. Sauf que c'est pas légal.
Mais t'as des copines qui font ça?
Oui, bien sûr. Alors, plein. Et je l'ai fait aussi par le passé. Ça m'est arrivé de faire deux, trois petites choses comme ça avec des copains photographes disant, je travaille pour cette marque, tiens, je te file 500 euros en liquide. Et en fait, c'est très dangereux parce que t'as un contrôle, n'importe quoi, tu te casses la jambe sur le travail, t'es pas assuré. Enfin, c'est du travail au black, c'est pas légal, c'est dangereux. Ça t'expose à plein de risques.
Et en plus, tu brades éventuellement.
Et en plus, tu casses le marché. Ouais. Complet. Parce que maintenant, il y a énormément de marques. Alors, je citerai pas de nom, mais beaucoup de marques de cosmétiques qui s'embêtent plus, qui appellent les filles sur Instagram, disant, tiens, je t'envoie plein de crèmes, tu nous fais un petit post. Donc, les filles, elles sont contentes, elles ont des crèmes gratos. Sauf que les mecs, en fait, ils se font des pubs tranquilles, 0 franc.
Et oui, c'est là que le marché, il est un peu cassé pour vous.
C'est ça. Puis alors, les réseaux sociaux ont quand même bien pourri le truc parce que...
Tout le trip de la belle photo avec la belle mannequin qu'elle coûtait très cher. Si effectivement, une petite jeune fille de 20 ans qui a une commu de 200 000 personnes...
Exactement. Et je tiens à préciser que ce n'est pas encadré. Les salaires d'influenceurs ne sont pas encadrés. Un agent d'influenceur n'est pas obligé de reverser la somme que le client paye.
Est-ce que les influenceuses, c'est pas les mannequins d'aujourd'hui et de demain?
Oh, pitié, me dis pas ça. Quelle horreur. J'espère que ça va vite se terminer. C'est pas du tout du mannequinat. C'est du capitalisme. Moi, je suis contre l'influence complète. Alors là.
Après, t'as des influenceuses qui vont justement être aimées plus pour leur personnalité, qui vont être attaquées, sur le fait qu'elles ne correspondent pas à des critères de beauté qui ont pu être vus comme, comme trop dur à respecter pour les femmes de
c'est
tous
pas
les
l'aspect,
jours.
En fait, c'est pas leur physique tant, c'est plus la façon de faire qui va, moi, me déranger. C'est-à-dire que...
Après, le physique, il y a des vraies différences. Hein. C'est-à-dire que tu vas avoir un physique beaucoup plus refait, éventuellement, du côté de l'influence. Est-ce que les mannequins, elles se font beaucoup refaire, par exemple? Ou alors
ça
discrètement,
quoi. À un moment, oui, il y avait surtout la poitrine, en fait. Essentiellement, oui. On le sait. Hein, Bella Hadid, elle est refaite. On le sait. Il y a pas mal de mannequins qui le font. Mais ça, c'est pas le même choix de chirurgie esthétique. C'est discret. Gisèle Bündchen, elle a les paupières refaites, machin, tout. Mais on dirait pas que. Enfin, c'est pas le symbole d'un physique refait. Tu vois, contrairement à Ariel Dombal.
Ou à Kim Kardashian.
Oui, à Kim. Alors là, c'est encore.
Elle est bien à la croisée des deux, des deux, hein.
Ouais. Non, mais c'est la référence malheureusement de physique de notre génération. Enfin, les jeunes filles de 16 ans, elles préfèrent Kim Kardashian que Malgosia Bella.
Ça a un peu perdu, j'ai l'impression, ton métier, mm-hmm. ton ancien métier.
Ah, ça a perdu de prestige énormément, moi je trouve.
Et ça a perdu aussi en prix, d'après ce que tu me dis.
Ah oui,
ça s'accompagne, en fait. Il y a une espèce de déclin.
Oui, non, encore. En fait, ce que je te disais, c'est que maintenant, il y a plus de mannequins qu'avant. Donc, il y a plus de mannequins pas chers. Il reste des mannequins très chers. Il reste des mannequins très, très chers. Mais et on parle d'argent, c'est colossal. Colossal.
C'est des centaines de millions.
Oui.
Pour une mannequin.
Oui, pas en une fois. Hein.
Oui. Mais,
Oui, t'as des mannequins qui sont payés 100 000 euros la journée très facilement.
Donc toi, tu te retrouves maintenant en position, si une jeune fille en qui tu crois marche, à toi gagner tes 3000 balles par mois, mmh, et
c'est ça. Et la fille,
à driver à une nana qui, si elle marche, va gagner des centaines de millions par an.
Et puis potentiellement, cette fille-là va m'appeler un jour en me disant « je te vire, j'en ai marre de ta gueule ». Quoi. c'est cruel, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que je pense que j'avais toujours eu, moi, un peu de considération pour les gens qui m'aidaient à réussir. Mais c'est très ingrat d'être agent parce que souvent, tu regardes les millions qui s'affichent et puis la nana, tu te démènes pour négocier un contrat et puis elle a la flemme, elle va pas au casting, tu vois. T'as plein de trucs comme ça. Et il faut réaliser que les trois quarts des mannequins avec qui on travaille ont moins de 20 ans. C'est des ados. Donc elles n'ont pas la même rigueur et le même professionnalisme.
Elles sont pas forcément fiables.
Bah non. Mais c'est pas de leur faute. Enfin, je veux dire, c'est normal. À 18 ans, personne ne l'est. Quand tu commences à travailler, des fois, t'as du mal à te lever. Tu t'es pris une cuite la veille. Enfin, c'est dans tous les travails comme ça. Quand t'as 18 ans, t'es un peu jeune encore et t'es pas forcément très responsable.
Comment ça va, toi, maintenant? Tu mets de côté? T'es plus calme? Oh, t'as rien à voir l'avenir? Maintenant que t'es salarié en CDI?
J'apprécie énormément cette stabilité. Aussi, il y a un truc, c'est quand t'es mannequin, tu bosses pas tous les jours. Donc, t'occupes tes journées à, tu peux aller boire des cafés, machin, bidule, faire du shopping. Quand t'es salarié, t'as quand même vachement moins le temps de dépenser des sous.
T'as même pas beaucoup de temps du tout, en fait.
Non,
hein.
Pas beaucoup de temps du tout. Ma vie financière a complètement changé, s'est métamorphosée et je suis plus du tout dans le même fonctionnement. Et je dois dire que je me sens plus à l'aise maintenant parce qu'en fait, c'est ce que je connais, c'est à une échelle normale. Et puis le ratio de ce que je gagne par rapport à mes efforts est normal.
Et proportionnel. Normal,
ouais. Contrairement à avant où j'allais bosser une journée, gagner très très bien ma vie et puis galérer tout le reste du temps à m'ennuyer, je trouve ça vachement plus équilibré.
Voilà, c'est terminé. Vous avez écouté Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. La post-production est assurée par Frédéric Fortuny sur une musique d'Emma Pixon. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter partout en France. Merci à vous et surtout n'hésitez pas à nous faire des retours, des critiques, à nous envoyer des messages ou à laisser des commentaires sur les réseaux. On répond toujours. À bientôt. Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire thune, vous savez qu'on a besoin de thune. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez thune, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien, il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google, en tapant Thune Podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.